Oui, au centre.
Merci. Vous avez bien expliqué votre motivation de créer ce mouvement. Est-ce que vous avez eu des effets? Est-ce que vous avez eu des égos, des gens qui vous ont dit ça a changé quelque chose, ça s'amplifie aussi dans la pratique?
Roland, question importante là. Quels ont été les effets de ce travail?
Alors, je suis absolument dans l'incapacité de répondre précisément à votre question. Ce qui est évident, c'est qu'on a eu un écho dans à peu près tous les secteurs professionnels. Je crois, si vous voulez, que, pour reprendre un mot qui avait été employé par Nicolas, je crois, hier, par rapport à l'art, on a donné, sans le vouloir d'ailleurs, des outils qu'on a fabriqués avec d'autres. Et ça, je crois que ça a joué, si vous voulez, son rôle. Ça aussi, on a eu des effets en dehors de la France. Parce qu'on a souvent des débats franco-français. Vous savez que ça, c'est un problème majeur aussi. C'est-à-dire qu'en Belgique, en Suisse, en Italie, enfin, au Canada, il y a eu... Le problème de l'appel des appels, c'est, je dirais, que cette fraternité ou cette hospitalité dont se nourrit notre vulnérabilité dans l'appel des appels a aussi une conséquence très, très nette, c'est que on est vraiment totalement militant, on est vraiment totalement bénévole, on est vraiment totalement sans moyens. Ce qu'on a pu faire quand on a loué des salles, quand on a pu faire un certain nombre de choses, c'est quoi? C'est lié au droit d'auteur qu'on a cédé quand ce sont des ouvrages collectifs. Nos ouvrages personnels, non, c'est un autre problème, mais tout ce qui était ouvrage collectif, tous les droits d'auteur ont été donnés à l'association pour pouvoir louer des salles, pour pouvoir faire des choses. Donc, si vous voulez, on est très dépourvu, et en plus, je l'ai dit avant-hier, je crois, on est dans une civilisation, ce que Barbara Cassin appelle la Google civilisation, on a une civilisation de la pétition, on a une civilisation du court terme, donc si vous voulez, c'est difficile de savoir les effets que ça a. Ce que je peux dire, moi, je ne sais pas, pour prendre un exemple très concret, par exemple, j'avais été invité il y a longtemps par le syndicat des psychiatres psychothérapeutes suisses à faire une conférence sur la psychiatrie. Quand on a lancé l'appel des appels, on leur en a parlé. Ils m'ont réinvité, mais à ce moment-là, plus pour l'appel des appels. On a fait venir, ils nous ont suivi un peu nos journées. Et puis un jour, par exemple, ils m'ont envoyé un texte qui avait été publié dans le journal Le Temps, où en gros ils reprenaient nos arguments. Ils n'étaient pas l'appel des appels, mais ils reprenaient nos arguments. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est très difficile. Je suis incapable de vous dire, si j'ose dire, les enfants que nous avons produits, mais il y en a eu, il y en a toujours. Puis c'est très étonnant, par exemple, je me souviens une fois où j'avais été invité pour ouvrir un colloque de psychologie scolaire dans le sud-ouest, justement, et. Donc c'était pour moi, j'étais pas du tout, si vous voulez, dans l'état d'esprit de l'appel des appels. J'allais ouvrir ce colloque par une conférence et on me dit, mais est-ce que le soir vous voulez rencontrer le comité local de l'appel des appels de Tarbes? Je ne savais pas qu'il existait un comité local de l'appel des appels de Tarbes. Donc si vous voulez, il y a cette surprise. Je crois que on a produit un certain nombre d'effets par essaimage comme ça, et j'espère que ça va continuer. Mais je suis incapable de vous dire, je n'ai pas quantifié, je n'ai pas chiffré, je n'ai pas enquêté, je ne peux pas vous dire, mais je suis persuadé, si vous voulez, que ça a eu des effets. La preuve, c'est qu'avant les élections, on a pas mal été sollicités. Après les élections, nous n'avons plus été sollicités, et de toute façon, nous sommes sans doute la seule association, le seul collectif qui n'avons rien demandé pour être auditionné, pour avoir une rencontre.
Roland, dans les effets, on peut dire, dans le cadre dont je m'occupe un petit peu, qui s'appelle les Amis de l'Humanité, il y a eu une rencontre à Paris entre Marie-Josée Monzin, Roland Gori et Lionel Buriello, qui est le secrétaire du syndicat d'ArcelorMittal Florange, et le secrétaire du syndicat de Petroplus, bon, à Petit Couronne. Et ce qui nous a frappé, Roland, écoute, c'était que ces deux militants ouvriers des deux usines, fermées toutes les deux, hein, Ils étaient extrêmement attentifs à ce qu'ont pu dire Marie-Josée et toi, Roland, quoi. Et que le courant passait. le courant passé, parce que l'expérience qu'ils étaient en train de vivre, les analyses que vous faisiez avec Marie-Josée, ils y étaient extrêmement sensibles. Je dis ça, c'est pas pour exalter le mythe ancien de la rencontre entre les intellectuels et les ouvriers, etc. Parce que ça, bon, on peut peut-être méditer là-dessus, sur ce qui s'est passé dans ce pays à une époque où ça a quand même existé d'une façon plus importante qu'aujourd'hui. Mais je pense que là, l'expérience qui était brève et tout, montre qu'il y a encore des flamèches là. Il y a encore des braises sur ces possibilités de faire que des milieux radicalement différents se rencontrent. D'ailleurs, quand je dis radicalement différents, je me suis fait rentrer dedans par Marie-Josée Bonzin, mais alors sèchement. Parce que j'avais dit, bah, cette fois-ci, on va essayer de voir s'il peut y avoir un échange entre le monde du travail et les intellectuels. Oh là là, qu'est-ce que je n'avais pas dit. Bon, et Marie-Josée a dit, à juste titre, mais Charles, mais nous sommes le monde du travail. Nous sommes le monde du travail. D'accord, Marie-Josée, voilà. Donc, je vous raconte ça, c'est parce que je pense que là, je ne sais pas ce que ça peut devenir, ça. Parce que ça, y a pas, ça n'est pas fréquent, ce type de rencontre, on peut le déplorer. Mais je pense qu'il y a un avenir pour ça. Pour l'instant, les conditions ne sont pas très bien réunies, il faut bien le dire. Mais ça devrait... Comment ? Ah ! Voilà la grande rencontre à venir, la grève générale. Bon, on verra à l'automne ce que ça donne. La grève générale. Bon, Roland, peut-être tu peux un petit peu conclure, enfin, si vous voulez, parce que on va peut-être pas attendre que la pluie s'arrête. Hein.
Non, mais il y a peut-être des réactions. Je suis pas sûr qu'il faille une conclusion. Peut-être réagir par rapport à l'intellectuel. Alors moi, je le dis tout de suite, peut-être parce que je suis un fils du peuple, pour l'Église, un enfant du peuple, mais moi, je suis pour le retour massif des intellectuels, parce que je suis persuadé, je vais dire un mot là-dessus, je suis persuadé que c'est sur le cimetière, justement, des engagements intellectuels que s'est élevée l'expertise qui est, encore une fois, un dispositif d'avilissement, d'humiliation et d'asservissement. Donc, si vous voulez, moi, je suis... Mais l'intellectuel, défendre l'intellectuel, attendez, il faut être très sérieux. Je suis très proche d'Anna Arendt aussi, vous l'avez compris dans mes analyses, l'intellectuel, ce n'est pas une assignation sociale ou civile, ce n'est pas un état civil. L'intellectuel, c'est ce qui existe en chacun de nous et qui relève d'une dignité de pensée, et on l'a bien vu dans la rencontre que tu as organisée, je ne vois pas en quoi les deux syndicalistes étaient moins intellectuels que Marie-Josée et moi. Et effectivement, je suis aussi un travailleur. Bon, peut-être dans des conditions plus favorable et matériellement et effectivement etc. Mais donc je crois que c'est très important. Je veux dire, intellectuel, c'était devenu à un moment donné d'ailleurs presque une injure, hein, comme vous savez. Bon, mais intellectuel, c'est très important. C'est reconnaître en chacun de nous qu'il y a un intellectuel, si j'ose dire, qui sommeille. Il faut le faire sortir de son sommeil politique, de son sommeil anthropologique, comme disait l'autre. C'est ça, c'est très très important. Je suis pour l'intellectuel parce que je veux en finir avec les experts. Et je peux vous dire, j'ai été élu 15 ans au Conseil national des universités, j'ai été vice-président, président, j'ai été 7 ans expert ministère de la recherche, donc je connais les expertises, je les ai vues évoluer. À un moment donné, l'évaluation, comme l'a dit Michel Blais, était plus possible, c'était plus tolérable. À partir du moment où je me suis fait remettre en place, alors j'étais président de cette section, parce que j'avais lu la thèse et que je faisais un commentaire sur le contenu de la thèse et que je ne donnais pas la structure formelle du jury, je pensais que j'avais plus rien à foutre dans ce truc-là. Il y a un moment où on se dit que ça n'est plus possible. Or, c'est vraiment ce qui se produit. Et là, je crois, par rapport à ce que disait Bruno, il y a vraiment quelque chose de catastrophique. Et ce qui est horrible, mais peut-être que tu pourras en dire un mot, ce sera aussi peut-être une manière de conclure, ce qui est vraiment horrible, c'est qu'on a eu quand même, sans avoir trop d'illusions, un peu l'espoir que ça changerait quand même un petit peu. Un petit peu. Avec le changement de pouvoir, et ça ne change pas. Et presque, ça serait par moments pire, parce que justement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a un adversaire, Nicolas disait, on regrette Sarkozy, disons que de manière obscène, il était l'adversaire identifié, identifiable. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, justement, d'identifier l'adversaire, parce que, tu vas sans doute en parler, avec nos propres mots, il agit à contre-courant, justement, de nos idées.
Oui, donc j'ai participé au comité de pilotage des Assises de la recherche J'ai participé parce que je suis président du conseil scientifique du CNRS et qu'il me semblait qu'il fallait, et c'est un mandat électif, hein, je suis élu syndical. Donc il me semblait important que le CNRS soit représenté, il est attaqué depuis des années, et j'étais agréablement surpris de ce qui s'est dit. Par exemple, sur le fait qu'on a besoin d'une recherche libre, sur le fait qu'on a besoin d'une évaluation, si on garde ce mot, basée sur la lecture, la connaissance des dossiers et non sur des chiffres. Puisque ça a été dit, je ne vais pas le rappeler, on a remplacé une logique de connaissances partagées, on va dire, par une logique d'agence de notation, ce qui favorise quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la science-spectacle. Et j'ai rien contre les spectacles, j'aime bien les spectacles, mais la science-spectacle, c'est quelque chose qui a comme corollaire, enfin c'est quelque chose qui est fait pour faire la une des journaux. Et il y a plein de conséquences de ça. La première conséquence, c'est qu'on parle de la recherche toujours au futur. Regardez dans les journaux, tous les journaux, même des journaux que tu connais bien, dans tous les journaux, on parle de la science au futur. On ne dit pas, on a trouvé un moyen de réduire la vascularisation des tumeurs. On dit, demain, on va guérir les cancers. On ne dit pas, on a trouvé un matériau qui, au soleil, change de forme. On dit, demain, on va pouvoir aller, je ne sais pas quoi. Donc, ça, déjà, ça ne va pas. Ensuite, ça encourage la fraude, ça encourage le plagiat, ça encourage tout un tas de choses. Donc, pour revenir à ce que disait Roland, j'ai participé donc à ces assises et on a eu des discours intéressants. Je ne vous raconterai pas tout, si au bistrot peut-être, sur la Cour des comptes ou sur Bercy, mais c'était amusant. Mais sinon, il y a eu la remise en cause de l'évaluation de ce type-là. Et puis, on a vu progresser. Il y a eu un discours du rapporteur général des Assises au Collège de France, Vincent Berger, qui m'a pratiquement fait pleurer. Il nous a parlé du CNRS en des termes voisins de Michel Dain. Il nous a parlé de ce que ça avait été le commencement de la recherche. Enfin, j'ai pleuré. C'était très, très beau. Un magnifique discours. Je lui ai dit, si j'avais ton talent, j'aurais pu faire le même, mais je n'ai pas son talent. Malheureusement, ce qui a été mis en place, c'est partout un retour en arrière. On a gardé les mots, on a gardé le mot de recherche libre et on a enlevé tous les contenus. On a fait disparaître les contenus. Et le pire, bon, il faut que je conclue, mais le pire, c'est qu'on a été beaucoup plus loin que ce qu'il y avait dans la LRU. Par exemple, dans les laboratoires, on fait de la valorisation de la recherche. La valorisation, c'est aussi le fait de pouvoir collaborer avec l'industrie, et ça, je pense que c'est une activité très noble aussi, donc on peut échanger. Ça a été remplacé par le mot transfert. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est pas grave, valorisation, transfert, c'est pareil. Et je lui ai dit, imagine, tu es en 1941, si on te dit valoriser les richesses de la France ou transférer les richesses de la France, est-ce que c'est pareil? Et voilà, je conclurai peut-être là-dessus. Tout a été... Bon, ce projet de loi est une catastrophe. Mais il faut se battre, hein. Il faut continuer grâce à l'appel des appels. Et juste pour finir, je n'avais pas dit pourquoi j'avais rejoint l'appel des appels. Je l'ai rejoint parce que je me suis aperçu que cette catastrophe qui nous tombe au CNRS, elle est vraie partout. Et ça, je ne l'avais pas réalisé immédiatement. Et je pense que c'est que collectivement qu'on pourra au moins en discuter et peut-être s'en sortir.
Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Ben, juste d'abord pour vous remercier d'avoir, malgré la pluie, le froid, etc., de nous avoir non seulement entendus, soutenus, enfin, on a partagé quelque chose ensemble, et on vous a pas raconté ce que c'est le retour des Lucioles. Bon, on va pas le faire maintenant, on va reprendre le texte de Pasolini sur la disparition des Lucioles, vous savez bien ce qu'il dit, hein. un moment donné, il y a des conditions environnementales qui font que les lucioles disparaissent. On ne sait pas si c'est la qualité de l'eau, on ne sait pas si c'est la qualité de l'air, mais d'un coup, il n'y a plus de lucioles, des espèces d'insectes luisantes vers luisants. Bon, et il dit, c'est ce qui s'est passé, il y a une révolution anthropologique qui fait qu'aujourd'hui, les valeurs ne sont plus les mêmes, que les valeurs traditionnelles ont disparu et qu'il y a de nouvelles valeurs, ce sont les valeurs de la religion du marché, j'en ai un peu parlé avant-hier. Alors, toute la question, j'avais eu d'ailleurs avec Georges Didier Huberman l'année dernière un débat là-dessus, puisque lui a écrit un livre sur la surveillance des lucioles, et que moi, je suis un peu comme Pasolini, un peu comme Agamben, je crains plutôt qu'elles aient disparu. Mais là, c'est tout un débat que je ne vais pas ouvrir maintenant. Mais je dirais que si elles doivent retourner, ben, je pense qu'elles pourront retourner par ce qui a été échangé aujourd'hui, qui n'est pas simplement ce que fait l'appel des appels, pas simplement ce que nous avons fait ou ce que nous ferons ou ce que nous faisons. C'est parce que il y a de l'amitié, parce qu'il y a de l'affection, c'est parce qu'il y a du témoignage, parce qu'il y a de la pensée, parce qu'il y a de l'humour, ben, parce que finalement, il y a quelque chose qui fait que effectivement l'amitié et l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour faire obstacle à la servitude volontaire et à tous les dispositions, des dispositifs qui sont mis en place pour finalement que le monde tourne, échange, le commerce, mais sans les hommes. Et ben, nous, on fait revenir, on essaie d'être humain, quoi. En étant humain entre nous, on est humain avec nous-mêmes. Et ça, c'est très important, parce que la manière dont on traite les autres, eh ben, c'est finalement isomorphe, identique à la manière dont on se traite soi-même. Donc chaque fois que je traite bien un ami, ben, je traite bien quelque chose en moi de l'amitié. Je vous remercie.